24 heures avec Léo Ferré avant d'accueillir Marie-Hélène Courtin en direct tout à l'heure. Avec Claude, nous accueillons Michel Avallon et Bruno Degaille. Bonsoir.
Bonsoir.
Michel Avallon et Bruno Degaille qui sont venus pour interpréter Java partout et c'est ainsi que les hommes vivent. Michel, on t'entend pas, je sais pas.
Allô, oui, on m'entend.
Si, mais voilà.
Allô, non, je suis pas au téléphone.
Si, bonsoir,
je suis à la radio. Bonsoir.
Tu es venu pour interpréter Java partout et c'est ainsi que les hommes vivent.
Voilà, je vais interpréter Java partout avec ma guitare.
C'est ton
et ensuite, j'aurai l'honneur d'être accompagné par Bruno Degaille.
Moi, je voudrais dire juste une chose.
Bien sûr.
Non, je veux dire, Michel, c'est un mec, je trouve, il y a pas mal de chanteurs dans la région, mais lui, je trouve, il a des caractéristiques assez particulières qui font que ben, il est là, il est timide et tout, mais je dis, j'aime vachement ce que fait Michel Avallon. Il est, en même temps, il est très jeune, et puis il est très classique dans ses choix, il puise dans les poètes, il va dans le répertoire, connu ou pas connu, mais bon, lui, c'est Prévert, Laforgue,
Apollinaire,
Rimbaud, Verlaine, Ferré. Et puis, il les chante avec une voix qui me rappelle celle d'Henri Tachant, un peu, parfois. Il y a comme ça des connotations. Et puis, il se permet des trucs. Il est rebelle. On sent qu'en lui, il y a du rebelle. Par exemple, il prend Marie-Zibyl, d'Apollinaire. Et puis, il prend pas la musique de Léo.
Il en fait quelque chose d'un peu tzigane.
Ouais, voilà. Il introduit un peu d'âme slave. Et il enroule tout ça avec une voix chaude et une guitare. Et puis ce soir, c'est le luxe ce soir parce qu'en plus il y a un piano. Et un pianiste même qui joue dessus. Alors ce soir on a droit en plus à quelque chose qui n'est... Il a sorti un disque, mais Java partout, c'est pas gravé. Donc c'est un cadeau pour Divergence et pour les 24 heures consacrées à Léo Ferré. Michel Avallon.
Rien que des grues qui font le pied de grue sur les docks ou les caisses. Si t'as pas ton ticket, t'as plus qu'à te foutre une tringle. Pour danser la java des buffets, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit ou bien envers, pas besoin d'être bilingue. Mais y'a qu'une manière, causer ma chère, la monnaie. Vieux maton d'Australie, beau matelas de Paris, fil ta laine. À Marseille, à midi, un cargo m'a souri pour la semaine. Il s'en va à Java. Dans les bars de Java, les bars de Zanzibar, ceux de la rue de chez moi, il y a de la Java qui mousse. Dans les yeux des inconnus qui t'en regardent dans la rue, il y a des filles nues qui se regardent en douce. Mais y'a qu'une manière de passer ma chère, la monnaie. Les chintocs, les ricains, les frisés, les rouquins filent ta thune. À Marseille, sur le quai, y'a une fille qui s'ouvrait sous la lune. C'est comme ça, la java. Rien que des phonos qui font les manchots dans les bois tout sans boîte, un pilule ou en watt, sans choix de la musique que. Et c'est faux, le vrai ou faux, ça va jusqu'au moment où ça ne va plus quand il faut de ça pour faire la mécanique. Et puis la manière de glisser ma chère, la monnaie. Vieille rengaine, fille de paille qui se prennent par la taille et s'inverse. À Paris, y'a Mimi qui a remis son pinceau dans le commerce. Bonjour de là, la Java, la Java, la Java.
Java partout, Michel Avallon, seul à la guitare. Michel, je sais aussi que tu es prof de guitare. Ça t'arrive, hein? Pourquoi la guitare? Ouais, bonne question.
J'ai rencontré, quand j'étais adolescent, des guitaristes. Voilà, j'ai pas tout de suite adhéré, mais quelques années plus tard, je suis revenu à cet instrument-là. Quoi.
Par rapport à Léo Ferré, la guitare, c'est peut-être pas l'instrument de référence.
Non, le piano, mais il a composé, je pense, à la guitare, hein, je crois. Ouais, c'est extra, peut-être. Ça sonne bien, la guitare, je trouve que c'est extra. Mm-hmm.
Voilà. Peut-être les morceaux qui sont, de référence hispanique, comme le flamenco de Paris.
Oui, il a joué avec un guitariste.
Oui, Barthélémy Rosso. Ah oui.
Non, mais avec
ah, oui, d'accord, oui.
Et Paco Ibanez qui a,
Paco Ibanez,
qui a participé à un album.
Ebasta, oui. Ouais. Ouais, on connaît ses classiques. Ouais. Alors maintenant, on va avoir, en plus de ta guitare, on va avoir le piano, et puis un petit Larsen aussi qui s'invite. Mm-hmm. Le casque, là. Alors, pour quel morceau de Léo ?
C'est une poésie de Louis Aragon. Et c'est ainsi que les hommes vivent, donc musique de Léo Ferré.
Merci.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps, à quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Léger cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passe comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. C'est ainsi que les hommes vivent. Déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de bol et d'épaule, la pièce était tellement drôle, moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne fleurissaient le sein de Lola, elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans le hockey du piano là. Ainsi que les hommes. Qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, je tombe sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus, elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Leur plaisir les suit. Il est d'autres soldats en ville, la nuit monte les civils, remets du rimel à tes cils, Lola qui t'en ira bientôt, encore un verre de liqueur, ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Que les hommes
oiseaux le suivent comme des soleils révolus.
Merci Michel. Est-ce ainsi que les hommes vivent, Louis Aragon, Léo Ferré, et auparavant Java Partout, paroles et musique de Léo Ferré, deux morceaux chantés par Michel Avallon.
Oui, bien sûr. Beaucoup de poètes à ton répertoire.
Oui, mais surtout de musique de Léo Ferré, car je trouve que c'est un excellent mélodiste. Et donc j'ai emprunté des musiques sur Arthur Rimbaud, pour les poèmes d'Arthur Rimbaud, Les Assis et Les Corbeaux, Aragon, et ainsi que les hommes vivent, l'étrangère. Et voilà, c'est très bien. Merci Léo Ferré d'avoir si bien composé. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus?
T'as pas ton anecdote, toi?
Hein?
Ah, il faut l'inventer.
Il faut jamais raconter l'anecdote à Claude Figara. Après, il faut les. Oui, quand je faisais les restaurants il y a quelques années au Cap d'Agde, parfois il nous arrivait avec mon camarade Philippe de Meulier de l'avoir un peu marre. Donc un soir, on avait choisi d'interpréter Thank You Satan dans le restaurant. Et je dois dire qu'on n'est pas retourné au restaurant, on était content.
C'était à quelle époque ça à peu près?
88.
Oui, d'accord. D'accord. Ferré dérange toujours. Aux terrasses de resto, qu'est-ce qu'il vaut mieux chanter?
Hein? Non.
Tu as arrêté ce genre de représentation?
Oui.
Dans la foulée ou quoi?
Non, ça n'a pas duré longtemps, ouais. C'est très difficile quand même. Ouais. Mais bon, c'est intéressant.
Thank you, Michel.
Merci.
Claude, on reçoit quelqu'un au téléphone, je crois. Ouais. Je viens d'apprendre qu'on reçoit quelqu'un au téléphone.
Reçoit, accueillons.
Allô, bonjour. Bonsoir.
Allô, oui, bonsoir.
Je ne sais pas quelle heure il est de la nuit. Bonsoir, c'est, alors.
C'est 10, oui, bonsoir.
10h08.
Allô, vous m'entendez?
Oui,
oui, bien sûr.
Très bien. Très bien. J'aurais voulu d'abord dire bonsoir à toutes les personnes présentes.
Mm-hmm, elle vous entend.
Un premier point. Maintenant, c'est ce que je disais à la personne que j'ai réceptionnée au téléphone. C'est bien qu'il y ait cette émission sur Léo. Tout le monde n'a pas la chance de connaître Léo dans toute sa durée, durant toute sa vie, pour tout ce qu'il a fait. Maintenant, je voudrais dire quelque chose de très important. C'est que il faut savoir que Léo est connu au-delà des frontières. Vous parlez de Léo en France. Il faut savoir que Léo existe dans d'autres pays. Moi, personnellement, je suis algérienne.
Mmh.
Nous écoutons Léo en Algérie. Nous le connaissons. Il est connu par la majorité de la majorité de la population, hein, que ce soit pendant les années 50-60 jusqu'à maintenant aujourd'hui. Il faut savoir que c'est encore vendu. C'est encore, comment dirais-je, nos aînés nous enseignent du Léo pour ceux qui ont eu la chance d'écouter ses chansons. Voilà, ça c'était un point que je voulais souligner parce que je vous écoute depuis le début de la soirée. Je pense que ça a été, que c'est un point qu'il fallait soulever.
Je pourrais ajouter pour confirmer ce que vous dites, que Léo a chanté plusieurs fois en Algérie, notamment il aimait raconter qu'il chantait dans un théâtre à Sidi Fretch qui ressemblait au théâtre de la mer à Sète.
Entre autres.
Et puis,
une
fois il était arrivé, le directeur du théâtre l'avait fait visiter, puis il lui avait dit, tu vois Léo là, avant l'indépendance, donc avant 62, il y avait une pancarte où il y avait marqué interdit aux chiens et aux arabes.
C'est possible, c'était la coutume à l'époque.
Mais c'était la coutume.
C'était la coutume à l'époque.
Oui, c'était la coutume.
Mon dégoût, mes coutumes quand même, je vous écoute.
Oui, oui. Voilà.
Et je voudrais rajouter, si vous le permettez, si j'ai encore quelques petites secondes.
Vous avez tout le temps que vous voulez.
Oui, c'est que Léo avait en collaboration avec d'autres chanteurs, je ne sais pas qui exactement, parce que bon, je n'ai pas la mémoire des noms, il y avait une ville en Algérie qu'on appelait le Petit Paris à l'époque, qui était un petit peu la représentation classique du Paris d'aujourd'hui, ou du moins en période d'occupation. Et il y avait, c'était coutume d'aller écouter les morceaux de Ferré. Alors, est-ce que Ferré y est passé directement, je ne sais pas, mais je sais que ben, je connais des gens encore qui sont en vie encore aujourd'hui, hein, et qui disent, ben nous, on allait là-bas et on écoutait ben, Ferré, on écoutait Aznavour, on écoutait Brassens, on écoutait Brel, on écoutait toute cette flopée, quoi. Mm-hmm. Cette flopée de gens qui arrivaient avec, avec un idéal, très certainement. Et par-dessus tout, moi personnellement, ce qui m'a fortement retenu auprès de Ferré dans la personne qu'il est, dans ce qu'il représente, c'est son extrême lucidité. On l'a fait passer pour tout et n'importe quoi à un moment donné. À mon sens, c'est quelqu'un d'extrêmement lucide, certes dans un cynisme et dans une qualité au niveau de la dérision, au niveau de l'humour noir, dans certains cas même. Il a fait rire, il a fait chanter, il a fait pleurer, il a fait danser, mais il a fait surtout réagir et prendre conscience de certaines choses. Et je pense que ça ne peut être que des coups de qualité qu'on ne peut comprendre, écouter Ferré. Si ce n'est pas ça, alors autant passer à autre chose, quoi.
Absolument.
Voilà.
Ah oui, merci beaucoup.
C'était mon témoignage.
Ah ben merci beaucoup.
Je sais pas, j'ai cru comprendre que son fils était présent.
Oui, absolument.
Mathieu Ferré, c'est
oui.
Bien ça.
Il est là avec nous, il est de l'autre côté de la vitre, mais si vous voulez, il peut...
Mais oui, non, mais je tenais tout simplement à ce que... Bon, c'est son fils, donc... Ouais. Mais je voulais qu'il sache ça, et les personnes présentes, et tous ceux qui écoutent. Voilà, Ferré est écouté au-delà des frontières. Je l'ai entendu en différentes langues.
Oui.
Ça, il faut le savoir aussi.
Mais oui, pour voilà. Prolonger ce que vous dites, nous allons avoir d'ici demain 18h, une série d'émissions consacrées à des interprètes italiens qui chantent les hauts en Italie. Et puis il y aura même une demi-heure consacrée à une chanteuse japonaise qui s'appelle Keiko Wakabayashi et qui a appris le français après avoir être tombée amoureuse des chansons de Léo Ferré. Elle a appris le français pour le traduire elle-même et pour le chanter. Et ça donne quelque chose de formidable. Elle prépare son troisième disque. Là.
Oui.
Vous voyez qu'on ne va pas passer à côté de ça.
Mais je vous en remercie.
C'est nous qui vous remercions.
Et merci pour ces minutes d'antenne. Donc.
Merci à vous. Et puis, restez à l'écoute. Merci à vous. Ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup.
Merci bien. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
Radio Libertaire 89.4. Il est 13h. Contrairement aux heures qui sont annoncées sur cette bande qui passe, je vous rappelle qu'il y a 24 heures d'émission autour de Léo Ferré. Que cette émission a été réalisée par la radio Divergence FM, qui est une radio de Montpellier. Cette émission a été une première fois diffusée au printemps dernier, et en partenariat donc avec Divergence FM, Radio Libertaire, profitant de l'anniversaire de la mort de Ferré, eh bien, diffuse à son tour ces 24 heures avec un certain nombre de choses qui sont tout à fait inédites dans les interviews, voire même, je crois, dans certains morceaux avec des interprétations un petit peu particulières. Donc, restez à l'écoute. Vous en avez encore pour un bon moment, puisque l'émission dure jusqu'à demain, 9h du matin. Radio Libertaire, 89.4. On continue avec Léo Ferré.
Myriam Criquet-Douguet.
Moi, je l'ai connue quand j'étais enfant. J'avais des parents qui l'adoraient et qui m'imposaient, mais vraiment m'imposaient, parce que je n'appréciais pas du tout de le regarder à la télé, de l'écouter. À l'époque, je n'appréciais absolument pas ses chansons. J'avais un peu peur de lui parce qu'il avait ses grands cheveux blancs, ses grands gestes et surtout ses tics. Ça n'est qu'après, en fait, quand j'étais adolescente, que j'ai écouté les textes de ses chansons et que j'ai adoré notamment ses interrogations sur le temps. Moi, l'une de mes préférées, c'est « Avec le temps ». Je la trouve tellement belle, tellement nostalgique, tellement vraie, que c'est quelque chose que maintenant je chante à mes enfants, paradoxalement.
Marseille, on dirait que ta voix a changé. On dirait que la carte nous portait l'Indochine en se prenant pour toi dans nos vies délavées. Tes pleurs avec du sang et puis l'âme marine. Oh Marseille, on dirait que la mer a pleuré tes mots qui dans la rue se prenaient par la taille et qui n'ont plus la même ardeur à se percher aux lèvres de tes gens que la tristesse empaille. Oh Marseille, on dirait que Notre-Dame en fleurs s'est penchée dans le port pour boire à ton eau verte, qu'elle voyait briller comme brillent les pleurs aux yeux de tes marins que l'absinthe déserte. Oh Marseille, on dirait que le vent t'a vaincu dans la miséricorde où la vallée le traîne et que de ce mistral qui glace ta vertu, il ne reste qu'un peu d'accent qui se promène. Oh Marseille, la vie a porté sur ton dos tout ce nord qui proteste en moquant la musique qui monte de ta gorge, accrochée à tes mots, les mêmes que là-haut dans les steppes. Oh Marseille, on dirait que flottent des drapeaux qu'une toile impudique a fauchée dans des voiles, et ces bateaux perdus qui croisent sous ta peau se souviennent de toi dans la gorge des squales. Oh Marseille, on dirait que les saisons se noient dans ton ciel portuaire où la lune s'affaire à compter les bateaux qui lui parlent de toi jusqu'au galion perdu qui se croit nucléaire. Oh Marseille, on dirait que le peuple et le roi ne savaient plus quoi dire et ne savaient que faire quand bouillait la colère, et 89 fois ils ont mis sur ton nom une chanson misère. Oh Marseille, on dirait que Shakespeare a l'accent qu'il a quitté son Angleterre et ses manières, qu'il t'apporte une rose et Joliette dedans avec des Roméo grimpant des canebières. Oh Marseille, on dirait que le cœur te va bien comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire. Ange frais débarqué à Marseille hier matin, on débarque toujours les amours passagères. Mais qu'importe ton ciel qui se prend pour l'Orient, qu'importe ton parler avec ces mots épiques, ces mots qui sortent faire un tour avec l'accent, ces mots qui ne sortent pas de polytechnique. Oui, mais quel mot Marseille? Oui, mais quel mot Marseille? Oui, mais quel mot Marseille? Quand tu mets ta musique, oh Marseille, on dirait que le cœur te va bien, comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire. Ange frais débarqué à Marseille hier matin. J'entends mourir et remourir un chant lointain. Marseille, Marseille, je t'aime.
Marseille, Léo Ferré, retour en direct dans le studio sur Divergence FM pour ces 24 heures avec Léo, en compagnie de Mathieu Ferré, de Claude, d'André. Cyril nous rejoindra dans quelques instants. On va parler de cette partie d'émission que l'on a intitulée Léo en douce. Marseille, c'est une ville que beaucoup de gens ont chanté. Léo l'a chanté de manière particulière. Et demain, Richard Martin, directeur du théâtre Toski à Marseille, nous dira pour quel attachement Léo avait à Marseille.
Oui, tu sais, je crois savoir, la première fois, je crois que j'y étais, enfin je sais que j'y étais, mais je crois que c'était la première fois parce qu'il l'a dit, et c'était pas le genre Léo à faire plusieurs fois, à dire c'est ce soir la première fois que je chante cette chanson. Je crois pas que c'était son genre, franchement. Il avait un papier, c'était dans les arènes du Gros du Roi, ça devait être en 80 ou 81, et je me retrouve pas... Et donc dans les arènes du Gros du Roi, il y avait même la fête foraine juste à côté qui a fait un certain bruit jusqu'à pendant une demi-heure. Et puis il est arrivé avec du retard, il s'est excusé en disant que c'était pas de sa faute. Il y a beaucoup d'Espagnols qui étaient rassemblés là. Et donc à la fin d'un récital qui avait été très très enflammé, c'était
très chaud.
Très chaud, c'était dans l'été, hein, forcément. Hein. Et à la fin, tu étais aussi.
Oui.
À la fin, si tu te rappelles, il est arrivé avec un papier et il a dit cette chanson, c'est la première fois que je la chante. Et c'était Marseille. Donc voilà quoi, c'était l'anecdote.
Marseille, c'était une ville, c'est une ville qui est très importante pour Léo, Pourquoi, Mathieu?
Pourquoi? Je pense que ça, quelque part, ça symbolise un peu le voyage, le départ.
Et c'est un port, c'est vrai que...
Voilà, ouais, oui, ouais. C'est, je pense que c'est...
Oui, puis la Méditerranée.
Oui, la Méditerranée, je ne sais pas. Oui, on peut peut-être aussi, mais...
Enfin,
il était plus amoureux de l'Atlantique. De
absolument, mais il est né en Méditerranée.
Oui,
au bord de la Méditerranée,
d'accord, ça on peut donc, être en Sibérie aussi, c'est pas pour ça qu'on aime la neige. Hein.
Oui, mais si, oui.
Là.
Bon, d'accord, mais pendant qu'il faisait son service militaire, car il a fait son service militaire, il transitait. D'ailleurs, il l'a fait à Montpellier à 7 en partie. Il transitait par Marseille. Et à l'époque, il fallait un certain temps pour faire Montpellier 7 en train. Et il y avait donc une heure, il y avait 2 ou 3 heures d'attente à Marseille.
Montpellier 7, il y avait 2-3 heures d'attente.
Il y avait 2-3 heures d'attente à Marseille pour trouver la correspondance.
Montpellier
7 ? Oui, Marseille 7. Et donc, il venait de Monaco, donc il venait de. Hein, et il allait jusqu'à Marseille. Et puis là, il était en correspondance, quoi. Il attendait 2-3 heures qu'un train l'amène à 7. Et souvent, avec son vieux copain Maurice Angéli, ils allaient sur la Canebière, un cinéma qui a disparu aujourd'hui. Et c'est là qu'ils ont vu beaucoup de grands classiques de l'époque. Bon, là, on était donc juste avant la démobilisation, on était dans les années 40. Quoi.
Mm-hmm. Ouais, enfin, donc, bon, je pense quand même que j'ai raison que le Marseille, ça symbolise surtout le départ, le voyage, quoi.
Oui, puis le côté cosmopolite de la ville, il l'aimait bien et il trouvait qu'ensuite, que, comme pour pas mal de villes, il y avait une urbanisation qui faisait que l'âme un peu se
Mais il y avait un quartier qu'il aimait particulièrement, la Belle de Mai.
La Belle de Mai, qui était chantée par Renaud aussi.
C'est le même cas.
Oui. Et d'ailleurs, on est pas loin de. Le Tourski se trouve dans la Belle de Mai, ce qui est un hasard. Le théâtre Tourski, animé par Richard Martin, et que Léo a souvent soutenu, oui, absolument, se trouve dans le quartier de la Belle de Mai, toujours. Et puis c'est là qu'il a donné, c'était exactement en décembre 91, 2 concerts avec la Philharmonique de Lorraine qui restent gravés dans nos mémoires.
Mais oui, ça, que dans nos mémoires, parce que bien sûr, personne ne les a gravés sur autre chose que dans les mémoires.
Non,
moi, j'y étais pas et je ne peux pas l'entendre.
Bon, moi, j'y étais, mais il y a une interview gravée sur le mini-disc.
Moi, j'y étais aussi, c'était vraiment super.
Mais oui, ben voilà,
vous avez raté quelque chose.
Non, mais voilà, ce qui est dommage, c'est que toujours, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est monsieur de ces maisons commercial, ben, quand ils ont des possibilités, ben, ils font pas ce qu'il faut. Quoi. Alors donc voilà, ça, ou d'autres fois qu'il a dirigé, Tristan et Isolde de Wagner, personne n'était foutu d'enregistrer ça. C'est quand même scandaleux. Quoi, voilà. Donc c'est gravé dans ta mémoire à toi parce que tu y étais, c'est pas gravé dans la mienne, et dans ceux qui naîtront dans 10 ans ou dans 20 ans, ou ceux qui n'y étaient pas, qui étaient en Bretagne ou à Lille, ailleurs.
Ouais.
Donc c'est un peu con, ça, je trouve. Voilà.
C'est vrai.
Claude, cette partie des émissions, cette soirée, on l'a intitulée, je me suis permis de l'intituler Léo en douce. Et je voudrais que tu nous dises pourquoi Léo en douce.
Ben, Léo en douce, c'est un titre que j'ai donné à une émission que j'ai produite il y a déjà quelques années, ça devait être en 86. À l'époque, j'étais plus dans une radio, parce que la première radio qu'on a fondée sur Montpellier avec... quelques amis s'appelaient Air Libre, mais elle s'est arrêtée en 85. Divergence, on l'a lancée en 87, si mes souvenirs sont bons. Et donc, en fait, moi, si j'ai fait de la radio, et ça continue, c'est parce qu'il y a Léo Ferré.
Voilà, il l'a avoué. Donc c'était lui
qui
fait de la radio pour Léo Ferré.
Ah oui, moi j'ai fait de la radio parce que je voulais avoir une raison de le rencontrer, autrement que les gens qui faisaient la queue dans la loge pour avoir un autographe, ou pour, bon, ben, c'est bien, mais d'accord, mais je voulais faire quelque chose avec lui. Je voulais travailler avec lui, c'était pas inconscient, hein. C'était bon. Après j'ai interviewé beaucoup j'ai interviewé beaucoup d'autres artistes que j'apprécie, mais j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir rencontrer plusieurs fois Léo. Puis après, bon, ça je vous raconte pas la vie, mais après c'est. Et puis aujourd'hui, on a dit qu'on n'allait pas
parler,
donc on en reste là. Mais par contre, j'ai eu cette chance. Un jour, je lui ai demandé, parce que je le rencontrais dès que possible, après des concerts, et c'était avec d'autres gens ou seul, mais c'était dans la loge, ça durait 10 minutes, un quart d'heure. Bon, on n'allait pas passer beaucoup trop de temps. Et un jour, je lui ai demandé s'il pouvait m'accorder un peu plus de temps pour aborder des sujets qui me tiennent à cœur, en particulier ses relations avec le mouvement surréaliste. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir le rencontrer très longuement, et ça a donné naissance, cette interview, à une émission qui a été montée donc en radio, avec un certain nombre de titres de Léo, et que j'avais appelé Léo en douce parce que pour dire en confidence.
Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est Léo en confidence avec un micro posé et pas forcément un micro tendu, un micro qui est là dans une conversation, qui est là pour capter un peu et les mots et l'émotion aussi et les bruits ambiants, puisque dans tes interviews, il y a aussi des bruits ambiants. D'ailleurs, votre père a souvent eu des gens qui ont eu envie de faire des interviews un peu comme ça, avec dans une ambiance. Je pense notamment à des extraits d'un livre
Robert Kudelka. Oui.
Voilà, de Robert Kudelka, dans lequel on entend le chien aboyer, etc., les cigales, enfin bon, bref.
Oui. Moi, si tu veux, ce que j'ai surtout apprécié à ce moment-là, c'est que l'ambiance, effectivement, était différente. C'était pas, bon, il y a quelques bruits, mais surtout, il y avait une... C'était pas comme dans certaines radios où, de toute manière, le temps est limité et où on cherche absolument à coincer la narre ou alors à lui faire sortir des propos provocants parce que voilà, qu'on est au cirque. Quoi. Léo, il savait très bien ça, mais il était dans ce métier aussi et il savait le faire aussi. Mais d'abord, ça serait venu à l'idée de personne sur n'importe quelle radio ou journal de 13h de provoquer le surréalisme pendant une demi-heure. Quoi. Or, c'est un aspect de. On parlait tout à l'heure de la grande culture de Léo Ferré. C'est un aspect que peut-être peu de gens connaissent, c'est qu'il a fréquenté André Breton, Louis Aragon, certes, mais aussi Benjamin Perret, avec qui il était très ami. Il aimait beaucoup Éric Satie, qu'il n'a pas connu, mais il aimait beaucoup sa musique, et c'est quelqu'un qu'on peut rattacher au surréalisme. Il avait beaucoup d'intérêt pour la littérature. Il connaissait Paul Valéry, mais il connaissait aussi beaucoup Sartre, qu'il critiquait énormément, notamment par rapport à son livre sur Baudelaire. Mais c'est quelqu'un qui a lu énormément et qui a côtoyé à Paris. Léo n'était pas dans le Saint-Germain à la mode, mais à Paris, Léo était fréquenté donc les poètes surréalistes, tout en étant totalement non encarté, si j'ose dire.
Tu es venu avec quelques extraits de Léo en douce. J'aimerais qu'on en écoute du Léo là.
Je pense que le moment est peut-être venu, puisque là on est arrivé à une certaine heure et que bon, il y a toute cette émotion, cette chaleur là qui est toujours prégnante là. Mais bon, peut-être que le moment est venu pour entendre Léo parler. Parce que
c'est vrai, parce que depuis qu'on vous a commencé, on n'a pas entendu la voix de mon père encore.
Au tout début.
Tu sais qu'il n'existe pas de disque d'interview de ton père.
Oui, je sais.
La polémique est lancée.
Donc, pourtant, il n'était pas avare d'interview.
Claude vous taquine.
Mais je connais bien Claude.
Il n'était pas avare d'interview, et je me demande toujours pourquoi, mais bon, j'ai une réponse, pourquoi toutes les radios en particulier, voire les télés, ne publient pas, parce que entendre Léo Ferré parler, c'est encore, on parlait tout à l'heure des talents de Léo, imprimeur, musicien, chanteur.
Oui, mais c'est pas la vocation des télés ou des radios de faire ça. Voilà. Les vocations de télé et des radios, c'est de diffuser, pas de publier.
Mais
ça qu'elles le font pas.
Tu as la collection Radioscopie de monsieur Jacques Chancel qui vous figure quelques numéros, quoi. Alors qu'il y a eu deux radioscopies.
Non, trois.
Trois.
D'ailleurs, je crois que c'est
mais la télé a souvent reçu Léo. D'ailleurs, André a eu quelques petits extraits d'émissions avec Jean-Christophe Averty aussi, avec d'autres personnes.
André. Avec Chancel aussi.
Avec Chancel, oui.
Moi, chez nous en Italie, je crois que j'ai 35 ou 40 heures de mon père à la télé.
Voilà, donc c'est vrai que c'était... moi, je suis assez d'accord avec toi, Claude. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été énormément reçu. On l'a reçu dans des émissions.
Il ne faut pas quand même non plus déconner.
Non, mais quand je dis énormément, c'est-à-dire qu'on l'a reçu dans des émissions qui pouvaient durer. Je pense notamment à Nuit d'absence. Je pense à l'émission d'Averty pour parler des dernières. C'était des émissions qui duraient, qui duraient pas. On ne le recevait pas, on ne le faisait pas chanter qu'une chanson. Même s'il l'a fait, ça.
Je crois que Claude avait raison quand il disait que Léo écrivait, chantait, etc. Mais que quand il parlait, y compris à la télé, c'était quelque chose, quand même. Et c'est dommage.
Oui, mais ça, je suis le premier à... J'aimerais bien, moi, aller publier ces trucs-là, mais il faut après se mettre d'accord avec tous ces gens-là, et c'est pas facile, quoi, avec les fameux diffuseurs, quoi.
Alors là, bon, mais...
Claude, on a assez parlé. Claude, on a assez parlé, on va l'écouter, Léo.
On a un diffuseur à la source, à l'origine, donc Claude Frigara.
Et avec là, une atmosphère, parce que là, il n'y a pas de cinéma, quoi, il n'y a pas de caméra, et puis il savait que le mec était en face... quoi, c'était pas Chancel ni machin, on était là pour parler, et donc il y a un ton particulier. Alors en plus c'est particulièrement émouvant parce que c'était en 86, et puis voilà, c'est la première fois que j'avais vraiment du temps avec Léo, puis on se voyait encore, bon, ça c'est un petit, et puis voilà, donc c'est bon. Allez, je crois qu'on écoute le premier morceau. Il est le premier, la première plage, et il est question de, des relations de Léo Ferré avec André Breton. Pour en revenir à Breton, est-ce qu'à l'époque, quand vous le côtoyez, vous évoquiez ensemble des, ce type de problème, ce problème d'édition?
Non. Pas du tout. On n'en voit jamais parler des de problèmes de... Bien sûr, je n'ai parlé qu'une fois avec lui de son livre sur Nadja. C'est tout, parce que ça m'intéressait. Et puis, ça, il ne parlait pas de Sistom. Vous savez, c'était le contraire d'Aragon. Aragon ne parlait que de lui. Breton, non. Pas du tout. Il m'a fait surtout connaître le Moyen-Âge. Telle enseigne que lorsqu'on s'est fâché, j'ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée d'ailleurs, dans laquelle je lisais, vous connaissez bien le Moyen-Âge, à croire que vous êtes encore, quoi. Hein? Il connaissait bien, oui, les meubles et tout ça. Il avait un goût fantastique pour les choses. Il découvrait les choses. Il avait le sentiment des belles choses. Un jour, j'étais chez lui, rue, près de la place Clichy, là. Et alors, je vois derrière son bureau, enfin, ce qui était considéré comme son bureau, une table, quoi. Un beau, une peinture très belle, qui représentait simplement un bouquet de cerises dans un pot, quoi. Je dis, c'est beau, ça, mais c'était beau, quoi. Il me dit, oui, j'avais acheté ça au puce en 1933-34. J'avais payé 5 francs. Et il me dit, c'était un douanier Rousseau. À telle enseigne que Picasso, avec qui il était très ami, juste jusqu'à la rupture de Picasso, le communisme. Picasso voulait me l'acheter, dit-il, 100 000 francs en 1936. Mais il avait l'œil qu'il fallait pour les choses, hein, formidable. Oui. C'est ça qui m'avait frappé, c'est ça que je retiens de nos rencontres. Et puis, il m'avait jamais donné l'impression de ce qu'il était réellement, c'est-à-dire ce qu'on appelait un peu le pape du surréalisme. Dans le bon sens du terme, d'ailleurs. C'est... Et puis après, il s'est fâché, quoi, avec moi. Je vous ai raconté comment. Et pourquoi. Ce que je n'ai jamais compris.
Oui, ça c'est un point important dans l'histoire de Léo Ferré avec André Breton, c'est que un jour, Léo a sollicité, disons, une préface pour Poète vos papiers, qu'il venait d'écrire. Il a reçu André Breton chez lui, comme il le faisait souvent, il se rendait souvent en visite, et il lui a donné le manuscrit enregistré au magnétophone. Et en lui demandant de l'écouter pendant la nuit, et le lendemain matin...
Non, il lui a fait écouter.
Il lui a fait écouter.
Oui.
Et après, il lui a donné le manuscrit.
C'était dit par Madeleine, ces textes-là étaient dits par Madeleine, et puis lui, il était là, il a écouté, et puis il a dit « formidable, Léo, formidable », tout ça. Et puis après, il a été se coucher en lui disant « Mon père, est-ce que vous me ferez cette préface ?» Léo, sans problème, c'est comme si c'était fait. Puis le matin, après, il s'est levé. Et puis,
il faisait la gueule.
Il faisait la gueule, il était dans le jardin, sur un fauteuil, assis, et puis... Et puis il a dit, Breton a dit à mon père, même en danger de mort, ne publiez jamais ces textes. Et voilà, et puis mon père n'a pas compris. Puis il s'est fait sa préface tout seul. Donc d'ailleurs, si on. Moi, je les ai retrouvés les numéros de. Il y avait une revue surréaliste qui s'appelle, je ne sais plus comment, dont Breton était rédacteur en chef. Donc dans le numéro 1, il parle de Léo Ferré, extraordinaire, la poésie, l'amour. La poésie qui s'appelle L'amour.
La révolution surréaliste, non, c'est pas la revue.
Non, c'est un petit, je ne sais plus comment s'appelle cette revue. Et donc ils font tout un petit dossier, on va dire, sur Léo Ferré, en disant que c'est un poète, talentueux et tout ça. Dans le numéro 2, donc entre-temps il y a eu cette aventure de la préface et tout ça, mon père a publié Poète Bois Pieux, c'était pas une revue qui paraissait tous les deux jours, hein, c'était tous les six mois, je crois. Et dans le numéro 2, c'était carrément Léo Ferré, c'est un salaud et tout, et il le démontait, il le descendait.
Oui.
Donc, alors, et c'était lui qui a écrit les petites éditoriales. Quoi.
Et Benjamin Perret, par contre, dans son anthologie de l'amour sublime, c'est les casques hein, peut-être qui font Larsen. Benjamin Perret, donc, qui a été, c'est le seul Perret qui a été le compagnon constant et jusqu'à la fin de Breton, hein, qui licenciait volontiers, qui faisait régner une certaine discipline dans le mouvement. Perret est toujours resté auprès de Breton. Perret a publié l'anthologie de l'amour sublime qui part des origines de l'écriture, puisqu'on trouve des
romans. Mais à quelle année alors ça ?
Alors ça doit être en...
Oui, parce qu'il faut voir si c'est à part ou après Poète-Vaupied, c'est ça voilà, aussi le truc. Voilà. C'est parce que dans la préface de Poète-Vaupied, il les démonte, le surréalisme.
Ça doit être aussi en 56, je crois. Et ça se termine par le poème qui termine donc cette anthologie de l'amour sublime, c'est l'amour de Léo Ferré, que plus tard il a enregistré en 83 sous le titre Je t'aime. Hein,
oui, non, c'est pas tout à fait comme ça.
En l'additionnant.
Oui, en additionnant un autre texte de 71 qui s'appelle Je t'aime tout court.
Voilà. Et globalement, ça devenait Je t'aime.
Oui, enfin voilà, il y en a deux en fait. Je ouais. t'aime, il y en a deux. Hein.
Donc, mais ton père est resté, je me souviens pour l'avoir entendu dire, il est resté d'une amitié indéfectible à l'égard de Benjamin Perret. Et d'ailleurs, c'est là qu'il a revu pour la dernière
Autant
fois.
Pour l'enterrement voilà. de Perret, ouais. oui, ouais. c'est vrai, oui, ouais. absolument. Mais je sais pas, ce truc-là.
Est-ce que tu as souvenir,
moi, j'ai pas de souvenir
à la maison
tout,
que ton père parlait
tout, non,
de.
Non, non, pas du tout, du tout, zéro. Non, là, ça, zéro. Mais je pense que. Après, avec connaissance acquise, on va dire, que ça lui a fait bien sûr beaucoup de peine, toute cette histoire-là. Mmh. C'est sûr. Mais toi, tu as un peu omis quelqu'un, c'est Georges Ribemont de Seigne, donc qui était un, on va dire, entre guillemets, petit surréaliste, paraît-il. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, moi, je ne suis pas apte à juger les autres. Hein. Mmh. Et donc, un auteur surréaliste que mon père a mis en musique, donc en fait, c'est le seul quasiment, je crois.
Oui. Oui, on peut le dire.
Et oui, c'est ça.
Dire, oui. Oui, effectivement. Il a mis en musique et...
Oui, il a fait aussi une harmonisation pour un texte de Benjamin Perret qui s'appelait « À plaisir ».
Oh là là.
Une harmonisation que personne ne connaît. D'ailleurs, plus
ah, vous êtes très très précis.
C'est... Là, c'est très très précis. Là,
voilà.
Là, les léophiles, là...
Mais non, mais c'est ça que vous vouliez ou...
Oui, bien sûr,
non,
bien sûr.
Non, on peut être beaucoup plus vague. Hein.
Non.
On va revenir sur... Parce que
tu as beaucoup d'extraits à nous faire écouter.
On va revenir sur cet épisode avec Breton. Mais juste avant, parce que moi, il me semble toujours, d'ailleurs, que ce qui caractérise le surréalisme, c'est l'écriture automatique. Et il me semblait que c'était une manière d'écrire privilégiée par Léo Ferré. Alors, je lui ai posé la question à ce moment-là.
L'écriture automatique, ça reste la révélation du surréalisme. Et vous lui êtes très attaché?
Non, pas du tout. Moi, je dis que... À ce moment-là, non, j'avais écrit une introduction à mon livre en disant que l'écriture automatique ne donne pas le talent, quoi. Et puis après, j'ai compris qu'un jour, que la plupart du temps, l'écriture est toujours automatique. En surveillant de près ce qu'on soit écrit, je pense. Il y a des gens qui écrivent automatiquement et qui ont du talent, et puis d'autres qui n'ont pas de talent et qui écrivent automatiquement pour en avoir.
Voilà, oui. Oui, voilà, mais je crois que, bon, c'est parce que l'écriture automatique, c'est pas aussi simple hein, que certains veulent le dire. Il s'agit pas de fermer les yeux, de s'endormir et puis de mettre sur le papier tout ce qui passe par la tête. Et par contre, il s'agit de maîtriser l'inspiration. Et ça, je pense que Léo Ferré était vraiment fonctionné beaucoup. D'ailleurs, il a écrit énormément. Et énormément, il n'y a rien à jeter. Et donc, l'inspiration.
Oui, il avait une facilité pour écrire.
Voilà, on peut appeler ça comme ça. Enfin. Ouais,
mais c'est difficile ouais. aussi de parler très précisément de l'écriture automatique. C'est pas simple non plus.
C'est pas simple, mais oui.
Je crois que c'est un peu un leurre quelque oui. part, moi. Oui. Ils disent je crée automatique, mais bon, je sais pas si c'est tellement automatique que ça, quoi, dans le fond, quoi. Je sais pas, bon, il y a toujours quelque part un inconscient qui ressuscite, quoi.
Mm-hmm. On revient avec Léo sur Breton.
Valéry, c'était un ami à lui. Alors, il s'est fâché, il m'a dit, je me suis fâché avec lui quand il est rentré à l'Académie française. Alors, j'ai dit, mais alors, comment ça s'est passé? Je dis, vous aviez des lettres de... Pas pourquoi j'avais demandé ça, d'ailleurs. Il m'a dit, oui, beaucoup. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait de ces lettres? Vous avez déchiré? Je lui dis, moi. Il dit non, je les ai vendus. C'était un petit un côté un peu de... Breton vendait les objets qu'il achetait aussi, je crois, des fois, quoi. Il était un peu dans son coin tout seul, je n'ose pas dire. Je croyais que j'étais un peu avare, quoi. C'est ça. Ah oui. Vous savez, les grands hommes, grands entre guillemets, ont toujours des petitesses qui ne sont pas en guillemets.
Voilà, c'est un exemple vraiment précis de la manière, de l'art de Léo Ferré, conteur, j'allais dire. Parce que l'art d'évoquer avec une anecdote une situation et puis de déboucher sur une considération, là, la petitesse les petitesses des grands hommes à partir de cet aspect dénoté chez Breton. Mathieu, est-ce que, autour de la table familiale, est-ce que ton père, donc, est-ce que tu confirmes que ton père aimait beaucoup rapporter comme ça des anecdotes, des histoires, il avait un parler, on pourrait penser qu'il était abstrait, qu'il partait dans des concepts philosophiques, du tout.
Non, c'était surtout, lui, ce qui, moi je me souviens bien, c'est il racontait des histoires de quand il était petit, quoi, de sa famille, quoi, de sa vie, pas de trucs comme ça dans les nuages, quoi, non, c'était des trucs concrets de sa vie, particulièrement de sa vie, quoi, quand il était enfant, beaucoup, ouais.
Tu penses que c'est la période à laquelle il faisait le plus référence, alors, quand même.
Je pense, oui, il me semble. Oui, il me semble, oui. Et puis, il avait un peu, je ne sais pas si c'est une manie, enfin, pas une manie, je ne veux pas dire, mais de lui ou de la famille en général, mais de comme ça, cette envie de continuer, comme ça, de perpétrer les noms des oncles, les tantes, alors comment ils s'appelaient, alors il fallait un peu apprendre, comme ça, un peu les noms de tout le monde. Et parce que les gens disparaissent, quoi.
Oui,
ils meurent et ils sont plus là. Et donc, la seule façon pour s'en souvenir, c'est de dire comment ils étaient, qui ils étaient, comment ils s'appelaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, quoi.
C'est ce qu'on retrouve un peu dans, enfin, beaucoup dans Benoît Misère, même si, bon, on connaît le prologue qui dit que ce livre n'est pas autobiographique, en fait. On sait bien qu'il y a un certain nombre de personnages qui sont campés dans ce roman, qui sont... La parenté, les parents, les oncles, les tantes.
Comme j'ai entendu dans l'interview qu'il a fait de sur Benoît Misère, dans plusieurs d'ailleurs, il fait des interviews sur Benoît Misère, il dit que c'est l'histoire de son enfance, en fait, effectivement, mais arrangée à sa façon, à son style, quoi. Un peu réinventé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de sa vie, enfin, c'est ce qu'il a dit, moi j'y étais pas. Hein.
Oui. Et les anecdotes sur le monde de l'édition, ou alors plus particulièrement celui de la musique, est-ce qu'il en était également très, très friand ?
Non, il n'en parlait pas beaucoup, ça. Des fois, je me rappelle qu'il était un peu en colère contre Barclay, et puis voilà. Quoi, il piquait des colères, et puis voilà. Quoi, mais... Non, il parlait surtout de... Puis il parlait de tous les jours, quoi. C'était un homme avec beaucoup d'humour, d'ailleurs.
Oui, c'est qu'on ne sait pas toujours.
Oui, on ne sait pas. On imagine qu'on perd quelqu'un de très...
Grinçant.
Voilà, mélancolique, triste. Comme si c'était toujours en train de pleurer. Puis non, c'était quelqu'un qui aimait rire et qui aimait faire rigoler aussi, quoi. Il arrivait bien à faire rigoler.
Oui, il a fait des chansons de chansonnier.
Mais je ne te parle pas des chansons, mais je te parle de tout le temps, quoi.
Ouais.
Et quelqu'un... En fait, comme tu sais bien... Mon avis sur ce sujet, c'est que je pense que les gens, ils ont une idée de Léo Ferré, ils le connaissent pas. Ils connaissent pas Léo Ferré. Ils ont une idée de Léo Ferré, qui est transmise par je sais pas quoi, par comme ça, des choses qui te viennent de je sais pas trop où. Donc voilà, les gens, ils se contentent comme ça d'une idée, d'une image, d'une pensée qu'on a de quelqu'un, et puis.
Parce que.
Si elle est pas exactement la. Réel, ils s'en foutent, quoi.
Tu penses pas qu'à un moment ou un autre, ton père s'est fabriqué un personnage ? C'est la question bateau, mais...
Non, jamais de la vie. Voilà. Non. Voilà. Non.
Par contre, il a pu prendre des pauses.
Alors, peut-être que... c'est possible, hein. Moi, j'en sais rien, moi, mais... Je pense pas que... Étant la personne qu'il était, il puisse même imaginer une chose comme ça, quoi, je veux dire. Se construire un personnage. Voilà,
c'est-à-dire être aux antipodes de la sincérité. Aux antipodes
mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire,
mais
là.
Oui, mais il y a des gens...
Se construire un personnage.
Voilà, mais il y a des gens...
Mais quoi, t'y as pensé, toi, ça ?
Non, mais il y a des gens qui te sortent ça.
Bravo. Ah, il y a des gens qui sortent ça.
Oui. S'il y a bien quelqu'un qui attire. S'il y a bien quelqu'un qui attire.
Non, mais ça, parce que c'est déjà les gens... Ils parlent parce qu'ils ont la bouche pour y aller, quoi, des fois, hein, je veux dire.
Absolument.
Mais moi, je suis le premier aussi à dire des conneries, sûrement des fois, hein, je ne vais pas dire. Hein, moi, je dis pas que je suis irréprochable, au contraire. Je ne dis que des conneries, moi. Mais... Non. C'était quelqu'un d'honnête qui n'a jamais retourné sa veste. Et puis voilà, quoi. Pas comme la plupart des gens, quoi. Voilà, quoi. Depuis 1950, quand il a commencé à écrire, même avant, si tu fais le petit effort de lire et d'écouter ce qu'il dit, eh bien, tu retrouves la même chose 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, quoi. Parce que c'est ça. L'idée qu'il a de la vie, du monde, des choses qui l'entourent, quoi.
La chanson triste qui terminait ses derniers récitals, quasiment.
Mais il n'aurait jamais même pas pu dire et faire ce qu'il a fait s'il avait voulu se construire un personnage. Tu te rends compte de trucs, là ça, j'avais jamais entendu, moi.
Ah, si, non, mais il y a tous les gens qui n'aiment pas ton père, disent ça.
Gainsbourg, qui faisait son truc un peu...
Ah, non, mais tous les gens qui n'aiment pas ton père
avec la barbe, et qui picolait, tout ça. Peut-être, je veux dire... ça, je sais pas, moi, et ça m'intéresse pas, moi, j'ai pas cette pensée-là de dire les gens que se construisent des personnages, ça, c'est quelque chose qui me dépasse et qui... je peux pas le concevoir, quoi. C'est pas dans mon éducation, Donc, voilà, quoi, c'est peut-être, ça veut dire peut-être quelque chose.
Ah, mais il fallait le dire, parce que les gens qui n'aiment pas ton père, souvent...
Oui, mais ça, les gens qui... Mais heureusement qu'il y a des gens qui aiment pas Léo Ferré, ça veut dire quoi, sinon... Mais bienvenue les gens, mais dites-moi pourquoi vous n'aimez pas Léo Ferré. Mais on peut discuter, je veux dire, moi j'aime Léo Ferré, toi t'aimes pas Léo Ferré. Vas-y alors, moi je vais te dire pourquoi j'aime, toi dis-moi pourquoi t'aimes pas. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, moi je voudrais comme ça avoir un affrontement comme ça avec quelqu'un. Alors après les gens c'est trop facile, la méchanceté rentre dans le jeu, de l'agressivité, c'est un peu trop simple et trop facile. Mais... si quelqu'un a des arguments valables, moi je peux le comprendre aussi, mais c'est bien qu'il y ait des gens qui... Il faut qu'ils ne soient pas une
ennemie. Tu sais bien tout ce qu'on a sorti à une époque, la Rolls, l'anarchie, le luxe...
Oui, peut-être, mais d'accord.
Ça vole à ce niveau-là, de toute façon. C'était jamais...
Si les gens, ça les emmerde que Léo Ferré ait gagné sa vie, et avec ce qu'il disait, ils ont qu'à écouter, basta, quoi. Il le dit lui-même, il dit... Moi, je gagne de l'argent avec mes choses. Ça te gêne ? Moi, non. Voilà. Tant pis pour toi. C'est pas M. Ford, M. Fiat qui exploite des ouvriers. Je dis, voilà, faut quand même arrêter. Mmh. Alors, si la personne, après, elle dit, oui, mais c'est quand même dégueulasse. C'est dégueulasse.
Oui, mais il
reste dans son truc, et puis...
Ce genre de jugement.
C'est de la connerie, quoi. Parce que dans la fin, c'est de la connerie.
Absolument.
Quoi. On va pas dire à M. Aznavour, à M. Gainsbourg, à M. Hallyday, à M. n'importe qui, ah oui, mais vous gagnez beaucoup d'argent.
Ah non, mais eux, ils se disent pas... Déjà, te dirais, eux ne se disent pas anarchistes. Hein. C'est ça, le problème. C'est pour ça que à un moment donné,
un
a été amené lui-même...
C'est aussi, c'est un peu trop facile aussi de dire...
à se justifier, enfin, à s'expliquer.
Non, à se justifier, je crois pas.
À répondre à ça. Et qu'il l'a fait
magistralement. Non, il a été emmerdé par ça. C'est pas une question de répondre. Celui-là a toujours répondu la même chose. Oui, il a été emmerdé, pas amené à répondre. Ce que je veux dire, c'est que l'anarchie de mon père est une anarchie dans laquelle moi je me retrouve, mais qui n'est pas peut-être tout à fait la même idée que les gens ont de l'anarchie. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus d'anarchistes... ils ne savent pas, dans le fond, qu'ils sont anarchistes. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Mais dans le fond, ils sont comme ça, quoi. C'est quoi ? Comme il dit, l'anarchie, c'est... il avait lu, quand il était petit enfant, dans un dictionnaire, l'anarchie est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Point. C'était ça, la définition de l'anarchie, c'était ça. Point à la ligne. Négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Point à la ligne. C'était fini. Le Larousse, de 1935 ou 36, je ne sais pas quoi. Maintenant, tu vas voir dans le Larousse, ou dans le Robert, ou dans le je ne sais pas quoi, anarchie, c'est le bordel. Voilà. Alors les gens, ils assimilent anarchie à ça. Et alors si ils assimilent ça au bordel, qu'ils restent dans leur truc, quoi. C'est ce que je te dis, moi. Les gens, dans le fond, ils ne savent pas ce que c'est l'anarchie, quoi. Vraiment. Et ça leur fait peur parce que... Ça leur fait peur parce que c'est quelque chose qui ne peut pas exister, dans le fond. Il faut être sidéréaliste, quoi. C'est quelque chose qui ne peut pas exister parce que l'homme... L'homme n'est pas construit pour vivre dans un monde comme ça. Quoi. Mm-hmm. Parce qu'il y a toujours... Moi, je suis plus grand que toi. C'est vrai, d'ailleurs. Je suis plus maigre. Je suis plus jeune. Je suis plus si. J'ai une meilleure vue, parce que j'ai pas de lunettes. Alors, donc, moi, je suis mieux que toi. ça peut être à tous les niveaux. Et voilà, quoi. Donc je suis supérieur à toi. Et ce fait de te dire ça déjà, c'est fini, quoi. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas du tout comme ça que ça doit fonctionner. Sinon. Mais ça, c'est plus fort que les gens, quoi. C'est toujours le truc de dire, ben oui, mais moi, je suis plus beau, je suis plus ci, je suis plus ça. Donc je suis le plus, quoi. C'est le plus qu'il faut éliminer. Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, peut-être que je me trompe aussi. Hein. Puis de toute façon, je m'en fous. Moi, j'ai mon avis, puis ça reste comme ça.
Très bien. Ah.